France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
La capitale royale de Tanis, dans le delta du Nil, a longtemps fait l'objet de nombreuses questions chez les égyptologues. Les fouilles réalisées à partir de 1929 par Pierre Montet et plus tard celles conduites par la mission française des fouilles de Tanis ont permis de mieux comprendre la grandeur de cette cité de la basse Égypte, qualifiée de Thèbes du Nord et qui a connu les affres d'une période politique particulièrement instable durant l'Antiquité égyptienne. Au début du mois d'octobre 2025, les travaux conduits par cette même mission française des fouilles de Tanis ont permis de faire la découverte extraordinaire de 225 petites statuettes funéraires, des Ouchepti, dans un tombeau qui abritait un sarcophage anonyme découvert en 1939 par Pierre Montet. Cette découverte est exceptionnelle puisqu'elle permet enfin de nommer le pharaon présent dans ce tombeau. Elle impressionne aussi du fait du nombre et de la qualité de conservation de ces statuettes qui ont échappé au pillage pourtant fréquent en Égypte. Ce lot de statuettes s'accompagne également bien sûr d'un autre lot, celui des réponses qu'elles nous donnent et des questions nouvelles qu'elles nous posent. Rien de mieux donc pour nous raconter l'histoire de Tanis et de cette trouvaille que d'en recevoir l'un des principaux artisans, Frédéric Perraudeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue, professeur à Sorbonne Université et directeur depuis 2024 de la mission française des fouilles de Tanis rattachée à l'école pratique des hautes études et à l'université Paris Sciences et Lettres, PSL. C'est vous qui êtes l'un des artisans de cette découverte. Alors félicitations déjà pour cette très très belle découverte.
Merci.
Et pour débuter cette émission, Frédéric Perraudeau, avant de parler de ces statuettes-là, de ces Ouchepti, j'aimerais qu'on présente Tanis, qui n'est pas forcément le site le mieux connu du grand public quand on parle d'Égypte antique. Où se situe cette ville? Quel est son rôle? Et pendant quelle période a-t-elle compté dans l'histoire de l'Égypte antique?
Alors Tanis, c'est une cité du nord de l'Égypte, hein, dans le delta du Nil, comme vous l'avez dit. On est dans une zone plate, hein, rien à voir avec la vallée du Nil plus au sud. Et donc Tanis est située au nord-est, hein, du delta du Nil. Elle a été fondée, maintenant on le sait, aux alentours de 1050, peut-être 1038 avant Jésus-Christ, pour être une capitale. Hein. C'est une ville nouvelle, fondée pour être la capitale du pays au début de la 21e dynastie.
Alors cette 21e dynastie, elle s'intègre dans une période qu'on qualifie de troisième période intermédiaire. C'est un peu un sac de nœuds, cette histoire de l'Égypte antique. À quoi correspond cette troisième période intermédiaire et quels événements surviennent durant cette période-là?
Alors, on divise l'histoire de l'Égypte en grandes périodes de prospérité qu'on appelle les empires, hein. Mmh. Et puis entre ces empires, bah, y a des périodes de division, de crise politique, économique, sociale, qu'on appelle les périodes intermédiaires. Alors la troisième période intermédiaire, bon, bah, c'est celle qui suit le nouvel empire, hein, à partir des années 1070 avant Jésus-Christ, et qui se poursuit pendant à peu près 4 siècles, jusque vers 664 avant Jésus-Christ, 660. Et elle est donc composée de 5 dynasties, de la 21e jusqu'à la 25e, qui sont donc des dynasties d'une période troublée en fait. Hein. L'Égypte est souvent divisée, pas toujours, hein. Il y a des éclaircies dans cette période brumeuse, mais l'Égypte est souvent divisée et il y a des périodes de guerre civile vraiment très 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 violente avec plusieurs pharaons, des fois jusqu'à 5 pharaons, hein, qui se battent pour le contrôle du territoire égyptien.
Est-ce que Tanis du coup répond à la construction de Tanis répond à cette instabilité là? Est-ce que Tanis a été fondée finalement pour contrebalancer un certain pouvoir qui s'exerçait à Thèbes? Je parlais d'une Thèbes du Nord, ou bien comment on peut justifier l'existence et la fondation de Tanis?
C'est sans doute un peu plus compliqué que ça. En fait, les fondateurs de Tanis viennent probablement de Thèbes, effectivement. Mmh. Hein, le pharaon Psousséles Ier est le fils du grand prêtre d'Amon dans le sud. Mais il y a deux choses à remarquer. D'abord, ces grands prêtres d'Amon ne sont pas c'est pas un pouvoir clérical comme on l'entendrait dans la France de la Troisième République. Hein. Mmh. Ce sont des militaires. Ce sont avant tout des militaires qui prennent le pouvoir et qui vont contrôler les grands centres, les grands sanctuaires religieux pour mieux légitimer leur autorité et contrôler aussi les ressources économiques de ces sanctuaires. Ensuite, l'Égypte a connu un basculement de son centre géostratégique vers le nord. Déjà, auparavant, déjà à l'époque des Ramsès, hein, la capitale de Ramsès II, elle est située à 25 km au sud de Tanis à peu près.
Ça
s'appelait Pi-Ramsès, voilà. Et on avait déjà un centre qui se déplaçait vers la Méditerranée, vers le Proche-Orient. Donc Tanis répond encore à cet intérêt-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a abandonné Pi-Ramsès? Eh bien, ça, on le sait depuis les années 60. La branche du Nil, hein, qui passait à Pi-Ramsès, s'est ensablé et a dû être progressivement inutilisable. Et donc, à partir de là, il a fallu déplacer la capitale. Cela dit, les recherches récentes montrent que le déplacement de la capitale de Pi Ramsès à Tanis ne s'est pas fait en une seule étape et que, en fait, on a d'abord abandonné Pi Ramsès et qu'il a fallu attendre plusieurs décennies pour qu'on construise Tanis.
Alors, Tanis, si on doit la présenter, quelles infrastructures on trouve dans cette capitale royale? Comment elle s'organise?
Alors, on fonde une capitale, alors on va y installer toutes les structures nécessaires. D'abord, les centres divins, hein, les temples. Et là, on va copier l'ancienne capitale du sud, hein, Thèbes. Et on va y importer à Tanis, donc, la triade des dieux thébains, le dieu Amon, qui est le roi des dieux, hein, et son épouse, la déesse Mout, leur fils, le dieu Ronsu, qui est un dieu lune. Cette triade va donc être importée. On a des sanctuaires pour ces trois divinités à Tanis, dès le début de la 21e dynastie. Et puis, on va sans doute y importer des structures de gouvernement, peut-être un palais, tout ça. Bon, ça, on n'a pas grand-chose de tout ça. Et puis, bien sûr, la résidence royale, la capitale dynastique, est aussi le lieu privilégié pour avoir la nécropole royale. Alors, la nécropole royale, jusque-là, elle était à Thèbes, hein, en lien avec le culte d'Amon sur la rive est. Donc, sur la rive ouest, on avait la nécropole dans la fameuse vallée des rois. Et cette vallée des rois a subi des pillages à la fin du Nouvel Empire, donc on va en profiter pour déplacer la nécropole avec la ville dynastique, on va dire, et installer tout ça dans le même lieu, à Tanis. Hein,
donc cette nécropole royale, Frédéric Perraudeau, elle est finalement protégée par l'enceinte de la ville elle-même.
C'est ça. À Tanis, il n'y a pas de rive ouest, hein, vraiment, enfin voilà, on est dans le delta, donc il y a des rives ouest un peu partout, vu qu'il y a plusieurs branches du Nil, et à partir de là, on va installer cette nécropole à l'intérieur de l'enceinte du temple d'Amon, qui est quand même une énorme enceinte, qui faisait à certains endroits 25 mètres d'épaisseur, même un peu plus, et qui montait à peu près à autant de hauteur. Donc c'est une vraie enceinte de protection avec des bastions, et à l'intérieur, eh bien, on a le temple d'Amon et la nécropole. Donc les rois morts sont sous la protection à la fois du dieu, sous la protection des hommes, évidemment, qui sont au service du dieu, les prêtres et les gardes. Et puis, évidemment, l'intérêt, c'est d'être auprès des offrandes, hein, qui sont déposées auprès du dieu, parce que les rois morts veulent des offrandes de nourriture, d'eau, d'encens, et ça, ils peuvent les avoir s'ils sont proches du dieu.
Pourquoi le nom de Tanis, Frédéric Perraudeau, a-t-il longtemps été, chez les égyptologues, sujet à des interrogations, à des questions? Qu'est-ce qui interrogeait, finalement, votre communauté en matière de compréhension de cette ville-là?
Alors, paradoxalement, c'est un des sites égyptiens qui a été identifié le plus tôt, puisque dès le début du XVIIIe siècle, le père Sicard a identifié les ruines de San et Lagar comme étant la ville de Tanis, connue par les géographes de l'Antiquité et aussi par la Bible. Et paradoxalement, lorsque les premières fouilles ont vraiment lieu, ce sont celles de Mariette, hein, au milieu du XIXe siècle, ces fouilles vont induire en erreur les chercheurs, puisque le nombre de monuments de Ramsès II qu'on va y trouver va faire penser qu'on est dans la capitale de Ramsès II, Pi Ramsès, dont on ne connaît pas l'emplacement à ce moment-là, et on va penser ça pendant à peu près 100 ans. On va se croire dans la capitale de Ramsès II, puisqu'on trouve énormément de monuments de Ramsès II.
Alors oui, ces monuments, ils sont finalement à la gloire de Ramsès II, puisqu'on a, vous le disiez, réemployé des pierres en grès, du matériau qui servait à la construction des édifices de Pi Ramsès. C'était aussi une ville, Pi Ramsès, qui était construite en calcaire. Le calcaire de Pi Ramsès a été, lui aussi, réutilisé, je crois, par les Romains pour d'autres fonctions. Donc c'est une ville qui s'est un peu évaporée aussi.
Ah oui, c'est ça. Quand on fouille à Tanis, j'ai un collègue, François Leclerc, mon prédécesseur à la tête de la mission, qui dit qu'on fouille, il a raison, il dit qu'on fouille une carrière, en fait. Mmh. Parce que Tanis a été construite avec des matériaux de remploi. Pour l'essentiel, on est dans un secteur où il n'y a pas de carrière. Donc, le plus facile, c'était d'aller à 25 km et de prendre les matériaux déjà taillés à Pi Ramsès. Et donc, le calcaire, le granit, le grès qui ont été utilisés à Pi Ramsès ont été récupérés pour Tanis. Et donc, on a des obélisques, des statues, tout ça, qui ont été remployés. Et d'ailleurs, pas toujours dans leur fonction d'origine. Hein. On a des obélisques qui ont été découpés en tronçons pour servir de seuil de porte, pour servir de remplissage dans les murs, des bâtiments. Et puis, évidemment, à la fin de l'Antiquité, sont arrivés les chaux-fourniers, hein, qui, pour fabriquer leurs chaux, ont utilisé le calcaire. Et donc, tout ce qui était en calcaire a disparu. Et il ne reste plus que le granit, et le granit porte la plupart du temps le nom de Ramsès II, d'ailleurs. Hein, l'appellation Pi Ramsès II n'était pas complètement fausse en soi.
Alors, Frédéric Perraudeau, j'évoquais le nom de Pierre Montet en introduction de cette émission. C'est un archéologue français éminent qui a eu un rôle capital pour la compréhension de Tanis. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, voilà, les grandes trouvailles qu'il a réalisées à Tanis?
Alors Pierre Montet, il s'intéresse à Tanis dans le courant des années 20 et en 28, il va obtenir l'autorisation de fouiller. Ça, on le sait maintenant très bien avec les archives qu'on a récemment retrouvées. Et à partir de 29, il va commencer la fouille. Et il va d'abord trouver un temple de Mout, hein, qui va appeler le temple de la déesse Anta, parce qu'il y a une statue de Ramsès II avec la déesse syrienne Anta, qu'on appelle aussi Anat. Et en fait, il y a un intérêt de Pierre Montet pour les liens avec le Proche-Orient. Qui va le renforcer dans son idée qu'il est bien un pire Ramsès, puisqu'à l'époque des Ramsès, il y a énormément de liens avec le Proche-Orient, que c'est l'époque potentielle de l'Exode, etc., même si on a complètement réinterprété tout ça, et qu'il s'intéresse aussi à la présence des peuples cananéens, des peuples du sud du Levant, avant même l'époque des Ramsès, hein, dans la capitale qu'on appelait Avaris, et dont on pensait que c'était aussi Tanis. Hein. Donc ça va diriger la fouille de Montet et son opinion sur la ville. Alors, il va aussi trouver une seconde enceinte du temple d'Amon, qui est très grande, et pour lui, c'est forcément une enceinte des Ramsès, alors qu'en fait, elle date des Ptolémées, hein, de l'époque grecque. Et puis surtout, en 1939, en dégageant des quartiers d'habitation de l'époque grecque, il va faire la plus belle trouvaille à Tanis, c'est-à-dire la nécropole royale de la troisième période intermédiaire, en avant du temple d'Amon, hein, au sud-ouest. Eh bien, il va trouver 6 tombes, dont une est intacte avec les trésors funéraires de plusieurs rois qui sont enterrés dans cette tombe.
Ce qui est rarissime, pour le coup, quand on parle d'Égypte antique, quand on connaît la quantité de pillages qui ont été réalisés dans les tombes royales.
Bien sûr, lorsque Pierre Montet trouve ça en 1939, c'est rien que la deuxième tombe royale intacte, hein, après celle de Toutankhamon. Bon, la découverte est, je dirais, plus intéressante que celle de Toutankhamon. Bon, je suis presque sur la chapelle, évidemment. je suis pas objectif, mais en fait, il y a quand même, on découvre quand même les tombes de 7 rois et pas d'un seul, et dont 2 intactes et 2-3 déplacés seulement. Il y a même des rois qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, il y a quand même un apport historique vraiment fondamental dans cette découverte. Malheureusement, elle n'aura pas l'aura médiatique de celle de Toutankhamon, puisque la découverte est faite en février 39, l'ouverture des caveaux inviolés en 1940, pendant le premier semestre. Donc évidemment, les circonstances internationales, la Deuxième Guerre mondiale qui a déjà éclaté, ou qui va éclater dans le courant de l'année 39, eh bien, va complètement occulter cette découverte. Il faudra attendre les années 80 pour qu'une belle exposition, hein, qui est passée notamment à Paris, fasse un peu la promotion de cette ville, de cette cité et de cette belle découverte.
En 1946, Pierre Montet réalise une autre découverte majeure sur le site, c'est la découverte de la tombe du pharaon Psousénès Ier. Alors, comment on peut ensuite, à partir de là, raconter l'histoire des fouilles qui ont été réalisées à Tanis, quasiment en continu jusqu'à vous, fouilles qui ont été reprises par cette mission française des fouilles de Tanis qu'a accompagné Pierre Montet. Voilà, comment on peut caractériser ce travail là de fouilles et quelles ont été les grandes découvertes réalisées par cette mission?
Alors, la découverte de Toussaint-Nest, c'est 1939. Hein.
Pardon.
39-40. En 46, il revient, il trouve dans un caveau, effectivement, la tombe d'un général qui est aussi intacte. Hein, en fait, ensuite, il va poursuivre son exploration du site, trouver notamment un lac sacré aménagé pour les rituels d'Amon. Après les années 50, il aura du mal à revenir sur le site. Il y a des événements politiques, évidemment. Et puis, l'âge de la retraite est aussi passé. Ce qui fait qu'il va passer la main en transformant la mission en mission française des fouilles de Tanis, hein, qui est vraiment la suite de la mission Montet, et qui va être rapidement dirigée par Jean Yoyotte, hein, un des plus grands égyptologues de la deuxième moitié du 20e siècle. Donc on a une suite de directeurs ensuite, hein, qui vont continuer cette mission en élargissant les problématiques, notamment en dégageant des secteurs inconnus. Le site fait quand même pas loin de 200 hectares, donc c'est vraiment une ville entière. Effectivement, la compréhension, par exemple, que la ville de Tanis est pied sur Thèbes, c'est quelque chose qui va se faire dans les années 80-90, avec de la prospection. Parmi les belles trouvailles, il y a l'identification d'un temple d'Amon du Harem, hein, d'Amon d'Opé, qui est finalement l'image du temple de Louxor, transposé à Tanis. Il y a aussi un lac sacré de la déesse Mout, qui a été trouvé dans les années 2000. Et puis dans les années 2010, effectivement, il y a eu cette prospection magnétique qui a permis d'identifier les quartiers d'habitation, les quartiers urbains, et aussi d'ailleurs des quartiers artisanaux, hein, dans le centre et le sud du Tell. Le Tell, hein, c'est l'ensemble du site et ses accumulations de vestiges. Et on a aussi une prospection céramologique, hein, qui a permis de bien dater les différentes occupations de cette cité, qui reste comme une capitale pendant à peu près 4 siècles, et qui va ensuite rester une ville importante jusqu'à l'époque romaine.
Voilà donc les bénéfices de ces découvertes réalisées par Pierre Montet et la mission française des fouilles de Tanis. On en vient à votre travail à vous, récent, plus récent du coup, Frédéric Perraudeau. Quels étaient les objectifs de la campagne de fouilles qui vous ont conduit à cette belle découverte qu'on va bien sûr décrire étape par étape dans quelques instants?
Alors, il y avait deux objectifs. D'une part, on a un programme de fouilles des secteurs urbains, en tout cas des contacts entre les secteurs des temples et les secteurs urbains, avec l'idée notamment d'aller chercher les quartiers d'habitation de l'époque de la fondation de Tanis, hein, de la 21e dynastie, qui sont très mal connus. Donc on a une fouille de la zone urbaine au niveau de ce qu'on appelle la porte sud, hein, qui est d'époque grecque, mais plus on descend et mieux c'est. Et là, effectivement, on a eu la chance de pouvoir dégager dès cette année des secteurs qui n'avaient pas été touchés en fait par les archéologues précédents, deux maisons d'époque ptolémaïque, d'époque grecque, donc vers 200 avant Jésus-Christ, rebâti en partie à l'époque romaine. Donc ça commence déjà à nous renseigner sur effectivement l'occupation de ce quartier. On en avait déjà eu des aperçus parce que Montet avait fouillé un peu un secteur adjacent, mais on va pouvoir continuer, j'espère, à explorer ce quartier et aborder des secteurs plus anciens pour mieux comprendre l'organisation de la ville au moment où elle est fondée. Et puis on avait un deuxième volet, hein, qui est lié à la conservation de la nécropole royale, hein, donc elle a été trouvée pas loin de 90 ans, et de fait, elle est menacée, hein, par les évolutions climatiques. Depuis qu'elle a été dégagée, elle est offerte, hein, aux intempéries, et elle est en calcaire. Or, tout le secteur de la ville de Tanis et de la campagne de Tanis a été ressalé lors d'un affaissement du delta. Le delta du Nil s'est affaissé entre le 4e et le 6e siècle après Jésus-Christ. Il y a eu des phases de mouvements tectoniques, des tremblements de terre, les obélisques sont tombés, les temples se sont en partie détruits, et à la même époque, sans doute, les chauffourniers avaient déjà commencé à œuvrer. Donc cette nécropole se trouve dans une situation où elle est menacée par les infiltrations d'eau, à la fois par les pluies, parce qu'on est dans le nord de l'Égypte, il pleut de temps en temps, hein, on est un climat qui est proche du climat méditerranéen, et menacée par la remontée aussi des eaux de la nappe phréatique. Donc qui font activer les sels dans les pierres, dans les roches, dans le sable, dans la boue, tout est salé en fait, hein. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'on a des dépôts de sel sur les parois décorées et ça, on peut pas le garder comme ça. On peut pas retirer ce sel, ça sert à rien en fait parce que il revient l'année suivante, hein. Donc il faut couvrir cette nécropole. Donc ça, c'est le projet actuel d'une couverture de cette nécropole et d'un système d'évacuation des eaux, de pompage qui permet de la protéger et ensuite de restaurer les parois. Donc on est en recherche de mécénat d'ailleurs pour ce projet, qui est un projet patrimonial, hein, sauver cette nécropole, mais qui permet aussi d'avancer sur la compréhension scientifique de cette nécropole. On a lancé un programme de réétude, notamment d'une des tombes, celle d'Osorkon II, de la 22e dynastie, qui comportait plusieurs chambres, qui comporte un décor aussi. Donc le décor est en cours d'étude, l'architecture est en cours d'étude pour comprendre les différentes phases de transformation de cette tombe, hein, qui est assez complexe et qui, je dirais, pour l'instant, les premiers résultats montrent que son histoire est un peu plutôt l'inverse de ce qu'on a raconté jusqu'ici. Et puis, il y avait au centre de cette tombe une antichambre qui avait été transformée en chambre funéraire à un moment donné, avec un sarcophage trouvé par Pierre Montet, un sarcophage qui était resté anonyme. En granit. Cette pièce se trouvait être la seule dont les sols n'avaient jamais été nettoyés jusqu'à un potentiel dallage qui finalement n'existe pas. On avait engagé le nettoyage de ce dallage.
Donc finalement, vous êtes aller dans des couches inférieures à celles qui avaient été fouillées par Pierre Montet au moment de la découverte de cette tombe. Et là est arrivé finalement ce qui arrive souvent en archéologie, des sortes de petits miracles. Enfin, souvent, pas si souvent que ça, parce que là, c'est vraiment une découverte incroyable. Ça commence par quoi? Qu'est-ce que vous avez vu en premier?
C'est-à-dire qu'on retire cette boue salée qui encombre le sol, avec l'idée de la remplacer par du sable et des graviers neutres. Et on espérait, hein, trouver un petit objet qui aurait échappé au pillage. La tombe avait été pillée, évidemment. Pierre Montet avait trouvé des éléments de statuettes funéraires, hein, mais qui étaient mal conservés, qui laissaient penser qu'un roi Chéchon pouvait avoir été enterré là. Mais ce roi Chéchon, qu'on a sa tombe un peu plus loin, hein, donc ça avait été rapidement rapidement éliminé. On pouvait penser à un prince, quelque chose comme ça. Et donc, de chaque côté du sarcophage, on est dans des petits espaces, on a 50 cm hein, de chaque côté du sarcophage, on a trouvé, en fouillant, deux fosses de voleurs. Hein, et Simone Nannucci, qui fouillait donc notre archéologue, a dégagé d'abord des blocs de décorés qui appartiennent au mur qui a permis de qui clôturait cette pièce, en fait, qui permet de comprendre définitivement le décor de ce mur. Et de l'autre côté, et des statuettes funéraires, d'abord un peu perturbé, cassé dans les couches supérieures, et puis dans l'angle de la pièce, rapidement, le 9 octobre, au matin, eh bien, on a deux, trois statuettes qui sont collées les unes aux autres, et qui sont presque debout, et on se dit que celles-ci, elles sont en place, et que ça va être une belle découverte, rapidement. Donc, là, je vais prévenir mes collègues qui sont dans les magasins un peu plus haut, sur le site, notamment Raphaël Meffre, hein, du CNRS, qui est une spécialiste française hein, des statuettes funéraires, des ouscheptis, comme on les appelle. Donc, voilà, on a des ouscheptis en place, et effectivement, on redescend assez vite. Rapidement, je demande à Simone Nannucci de nettoyer un des ouscheptis jusqu'au pied pour voir le nom, parce que le cartouche ou le nom du propriétaire des statuettes est souvent indiqué sur la partie basse, évidemment. Et là, on lit le nom de Cheshonk III, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fiche là? Ça a été ma première phrase, une sorte d'incrédulité, parce que effectivement, on a sa tombe à côté. On pensait qu'il était enterré à côté. Il y a une tombe avec un décor à son nom, un sarcophage à son nom, plutôt soigné. Donc, on se demandait vraiment pourquoi ce roi était là. Mais il était clair que bon, on avait un lot relativement complet d'ouscheptis posé en petites couches à l'intérieur d'une fosse qu'on a mis 10 jours à dégager progressivement. Hein. Il y en avait 225.
225.
Donc, il a fallu engager un processus de restauration. Là, on a eu la chance d'avoir une collaboration avec le musée du Louvre qui nous fournit une aide en personnel en nous déléguant une experte, hein, Sophie Duberson, qui nous a d'abord à distance envoyé un protocole à suivre pour les dessaler et puis les sécher progressivement, les nettoyer. Et puis elle est arrivée, elle s'est emparée du dossier, si j'ose dire, avec les autres collègues restaurateurs.
À quoi ressemblent, Frédéric Perraudeau, ces ouscheptis-là que vous découvrez au nombre de 225, ce qui est vraiment impressionnant, en plus dans leur contexte archéologique?
Alors, ce sont des statuettes en faïence hein, qui font environ 13 cm à peu près. Il y a plusieurs moules, hein, donc il y a plusieurs tailles. Et puis, ce sont des statuettes de serviteurs funéraires. C'est-à-dire que ce sont ce sont pas des statues du roi en lui-même. C'est plutôt des statues de serviteurs qui vont travailler pour lui dans l'au-delà. Hein. Le mort doit travailler dans l'au-delà égyptien. Et donc, pour éviter de travailler, eh bien, il emmène avec lui ces statuettes qui vont travailler à sa place et qui vont répondre à lui au moment de l'appel pour le travail. Ouscheptis, ça veut dire ça. Ça veut dire répondant, ceux qui répondront au moment de appel. Et donc, ils sont présentés en serviteurs momifiés, donc le corps est momifié, mais ils ont dans leurs mains les outils agricoles, notamment la houe, hein, et un petit sac qui comporte des grains de blé pour les semailles. Donc, ce sont des travaux agricoles, évidemment. Hein, et on a ces lots-là. On a des serviteurs féminins aussi, hein, des servantes, si on veut. Et puis, on a aussi des chefs.
Qui est plus rare. Hein.
Alors, les servantes sont plus rares. Elles apparaissent un peu plus rarement. Et on pensait même qu'elles disparaissaient à peu près à cette époque-là. Donc là, la découverte vient complètement bouleverser cette idée. On en a beaucoup en plus hein, de serviteurs féminins. On en a plus que la moitié, mais il faut penser qu'on n'a pas le lot complet. On a 225 ouscheptis. On peut imaginer qu'il y en avait à peu près 300, 350, peut-être 400. Ça veut dire qu'il en manque. Et comme la fosse dans laquelle ils étaient déposés est déborde, hein, il est probable qu'il y en avait déposé dans la pièce d'à côté. Et en relisant le journal de fouilles de Pierre Montet, on se rend compte que dans la pièce d'à côté, il y avait des petits fragments. Effectivement, il a dit il y avait des petits fragments de statues de funéraires. Il dit nombreux petits fragments, mais cette pièce c'était comment dire celle où par laquelle les voleurs arrivaient. En fait, ils sautaient du plafond et ils ont dû sauter pendant plusieurs équipes sur ce lot. Et donc effectivement, Pierre Montel n'en a trouvé que des minuscules fragments, ce qui ne lui avait pas permis d'identifier le tombeau.
Si on résume, Frédéric Perraudeau, cette découverte, à quelle question elle vient répondre? Quels sont les voiles qui sont levés grâce à cette merveilleuse découverte?
Alors, la présence de ces statuettes funéraires en place montre qu'on a affaire à l'enterrement du roi. D'ailleurs, on a trouvé aussi de la céramique, probablement des offrandes animales. Donc, c'est clairement l'enterrement du roi. Et donc, le roi qui est dans le sarcophage à côté, qui n'avait pas de nom. Donc, c'est bien Cheshonk III qui est enterré là, dans un endroit qui n'était pas la tombe prévue. Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois ces derniers jours, lorsqu'un roi fait construire sa tombe, pour lui-même, il fait un pari. Il peut pas absolument pas être certain que son successeur, qui sera pas forcément son fils, surtout dans ces époques troublées, fera l'enterrera là où c'était prévu. Lorsque le roi meurt, le roi suivant est proclamé en situation normale, mais on peut imaginer qu'en situation de guerre civile, eh bien, il y a déjà un roi qui s'était autoproclamé avant et donc qui peut essayer d'arriver pour reprendre la succession. Il y a une période de 70 jours qui s'ouvre, hein, de deuil, pendant laquelle on procède à la momification et on va enterrer le roi au bout de 2 mois. Donc, l'incertitude politique peut jouer beaucoup sur l'enterrement final du roi. Et là, on doit dire que le règne de Sheshonq III était connu, hein, pour être un règne très très mouvementé, avec une guerre civile qui est déjà en place au moment où il monte sur le trône et qui dont on avait des documents déjà pour ces dernières années de règne. Donc là, on peut penser qu'elle continue encore un petit peu après. Donc ça, si c'est une indication que la situation politique ne s'est pas stabilisée à ce moment-là, ça du point de vue historique.
Alors cette instabilité politique là, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, elle a pas d'effet sur les pratiques religieuses, les pratiques d'inhumation. Est-ce que on peut avoir une interprétation historique à partir de cette découverte là, justement sur cette troisième période intermédiaire dont on parlait tout à l'heure?
Alors, il y a quand même un impact sur le mobilier funéraire. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, dans les tombes, même dans les tombes intactes, hein, de l'époque des Psousonès, ou de la 21e dynastie, on n'a pas le mobilier qu'on a chez Toutankhamon, par exemple, les chaises, les trônes, les chars, les choses comme ça, on n'a pas. Mmh. On concentre vraiment le mobilier funéraire sur ce qui va servir au défunt pour le protéger dans la mort, et lui fournir les armes pour les étapes et les épreuves dans l'au-delà. Donc, il y a tout ce qui concerne la protection de la momie, les vases à viscères dans lesquels on placera ses viscères après la momification, les statuettes funéraires pour travailler à sa place, des offrandes de nourriture, un peu de vaisselle éventuellement, mais qui est souvent la vaisselle qui sert au moment de l'enterrement, qui peut être précieuse. Mais en dehors de ça, on va pas avoir un mobilier funéraire beaucoup plus développé. Donc, il y a moins de variété et on se concentre vraiment sur le funéraire. Donc, il y a quand même un impact de ces troubles. Et ça, c'est valable pour les rois, mais c'est aussi valable pour les particuliers, hein, très clairement. Et puis les tombes sont beaucoup plus petites. Les tombes de Toutanis, en bois, des tombes royales, elles sont beaucoup plus petites que les tombes de la Vallée des Rois.
Alors si on obtient des réponses grâce à cette découverte des 225 statuettes funéraires, je le disais en début de cette émission, toute découverte en archéologie amène à d'autres questions. Quelles sont ces questions qui se posent à partir de cette découverte des Ushepti?
Alors, d'abord, il y a la question pourquoi Sheshonq III n'a pas été enterré à l'emplacement où il avait prévu de l'être. Et je dirais la question qui va avec, pourquoi son successeur, qui est Sheshonq IV, s'est fait enterrer dans cette tombe de Sheshonq III sans changer le décor. Mais là aussi, ça ouvre la question, Sheshonq IV a été enterré par qui, hein, lui-même. Qui a enterré Sheshonq III? Ça permet aussi de mieux comprendre la chronologie de la tombe, hein, la tombe d'Osorkon II, de comprendre aussi le décor du mur qui avait été rajouté, qui porte la représentation d'Osorkon II de Sheshonq III, d'ouvrir la question de l'ensemble de la chronologie de cette nécropole, et notamment la chronologie du pillage de cette nécropole. Parce que parmi les indices qu'on a pu trouver, on a aussi des éléments de datation du pillage, qui est beaucoup plus tard qu'on a pu le penser, et qui pourrait correspondre à la même époque que celle des chauffourniers, en fait.
Qui a enterré Sheshonq III, ça pourrait être le titre d'un très beau polar, et c'est vous qui allez continuer de l'écrire, Frédéric Perraudeau. Merci encore d'être venu à ce micro parler de cette très très belle découverte. Encore bravo à vous et vos équipes pour la réalisation de cette découverte. On vous souhaite d'en réaliser encore, et de nombreuses, et de très belles, à Tanis, et on vous dit, on l'espère, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sancini, avec nous toute la semaine Merlin Dupré, mes aînés, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Ludovic Auger aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.